Kouroglous prit de goût pour Chamelie Bill et y bâtit une forteresse. Un fort Kalka en Perse, village entouré de murs avec des tours et des meurtrières dans les angles. On voit encore aujourd'hui les ruines du fort de Kouroglou à Chamelie Bill. Tous ceux qui entendirent parler de lui, de sa valeur et de sa libéralité, s'empressèrent de se joindre à sa bande. En peu de temps, la forteresse devint une ville contenant 8000 familles. Ce fut là que Kouroglou fit connaissance avec le marchand Kruya Yacoub, qu'il adopta plus tard pour son frère. Cet homme avait voyagé dans tous les pays du monde, et il amusait souvent Kouroglou par la description de ce qu'il avait vu. Le marchand Kruya Yacoub, allant un jour à la ville d'Orfa, vit une grande foule rassemblée sur la place du marché. Il s'avança et vit un jeune garçon tel que le dépeint le poète. Mon cœur aime un jeune homme dont les sourcils sont bien arqués. Sa ceinture est étroite, ses lèvres ressemblent à un bouton, à une rose souriante. Jeune homme, sacrifie ton âme à la beauté, contemple en moi son esclave. Parcourez le monde entier, vous ne trouverez pas un enfant de plus belle espérance. Son nom est Aïvaz Bali. C'est la prairie du 8e ciel. Son père est boucher de son état, le fils est une mine de pierres précieuses. Kruya Yacoub demanda, « De quel jardin est cette rose? De quelle prairie est cette plante ?» Quelqu'un répondit, « Son père est boucher du pacha de cette ville. Aïvaz Bali est son nom. » Le marchand pensa en lui-même, « Mais Kouroglou n'a pas d'enfant. Pourquoi n'adopterait-il pas un si beau garçon pour son fils ?»« Ah, mais que dois-je faire ?»« Si à mon retour à Chamblibille, j'essaie de lui dépeindre ce que j'ai vu, il ne me croira pas. » Il trouva alors un peintre d'Orfa et lui paya un bon prix pour faire le portrait d'Aïrafs. Après un voyage de quelques jours, il revint à la forteresse de Chamelie Bill. Il fut dit à Kouroglou que son frère Kruya Yacoub était revenu. Il ordonna aussitôt à ses hommes d'aller à sa rencontre et de l'amener dans la ville avec les honneurs qui lui étaient dus. Dès qu'il fut descendu de cheval, Kouroglou le baisa sur la joue et le fit asseoir à ses côtés, tandis que Kruya Yacoub lui baisait les deux mains comme à son supérieur. « Hurrah, mes enfants, du vin !» cria Kouroglou. « Buvons en l'honneur de l'arrivée de notre frère !» Et ils s'assirent, et ils burent, au point que Kruya Yacoub commença à devenir gris et sentit sa tête s'allumer. Kouroglou lui demanda d'où il venait. Il répondit « D'Orfa ?»« Tu n'as pas vu par hasard à Orfa un plus beau cheval que mon Kirat ?»« Ah non, je n'en ai pas vu. »« Dis, as-tu vu là des hommes plus beaux et plus braves que mes compagnons ?»« Je n'en ai pas vu. »« As-tu vu, dis-moi, une fête plus joyeuse que la mienne ?» Je n'en ai pas vu. As-tu vu des échansons plus beaux et plus richement vêtus que les miens ? Frère guerrier, j'ai vu là un jeune garçon que les mains de tous vos jeunes gens ne sont pas dignes de laver. Voilà que tu deviens vieux et que tu n'as pas d'enfant. Pourquoi ne le prendrais-tu pas pour ton fils, afin de faire de lui, quand le temps sera venu, un guerrier digne de te servir et de te succéder lorsque tu seras mort, aussi bien qu'un appui et un fils tant que tu vivras. » Il commença alors à vanter la beauté d'Aïvaz et sa mâle physionomie. Kouroglou dit, « Eh quoi, marchand qui n'est bon à rien, ne pouvais-tu dépenser quelques tumans pour payer un peintre et m'apporter sa ressemblance ?» Le marchand sortit une miniature de son habit et la tendit à Kouroglou. Kouroglou la prit, et quand il l'eut examinée, les rênes de sa volonté échappèrent des mains de sa patience, et il s'écria « Dali Hassan, qu'on apprête une chaîne et des fers. » Le marchand, étonné, demanda ce que signifiait un ordre semblable. « Je vais te faire enchaîner, misérable. Mais pour quelle raison et quel est mon crime ? Est-ce donc la récompense que tu me donnes pour t'avoir trouvé un fils ? Mais c'est pour le mensonge que tu as dit. Homme, écoute-moi. Je vais partir pour Orpha à l'instant même. Tu attendras mon retour enchaîné dans un cachot. Si le jeune homme justifie réellement tes louanges, que mon nom ne soit pas Courlanglou, si je ne me couvre pas la tête du Pubidor et ne l'exalte pas au-dessus d'un voûte des cieux. Mais malheur à toi si Aïvaz est indigne de tes éloges, car j'arracherai la racine de ton existence du sol de la vie, et ton châtiment servira d'exemple aux menteurs impudents comme toi. Tu ne dois pas mentir à tes supérieurs. » Cela dit, il donna l'ordre d'enchaîner le marchand par le cou et par une jambe, et de le jeter ensuite en prison. Dany Hassam, que l'on scelle Kirat. Dany Hassam mit lui-même la selle et le coussin sur le cheval de son maître et les attacha 7 fois avec la sangle. « Je pars pour Orpha, » dit Kouroglou, « que personne de vous ne se hasarde de boire de façon à s'enivrer jusqu'à ce que je sois de retour. Malheur à celui dont la demeure retentira des sons de la musique et du tambourin. Souvenez-vous de cette défense où je vous arracherai de la terre et vous jetterai au vent comme un chardon nuisible. Je pars seul pour chercher mon futur enfant, pour chercher Aïvaz. Je mourrai ou je reviendrai avec lui. Écoutez ma chanson. Improvisation. J'adopterai pour mon fils le jeune Aïvaz Bali. Attendez le jour d'adoption jusqu'à mon retour. Demandez-le en Turquie, en Syrie jusqu'à mon retour. Un homme brave monte l'arabe gris ou le bai et galope tout le long du chemin sur le cheval de bataille au pied léger. Tuez des veaux, égorgez des moutons et nourrissez-vous de mes troupeaux jusqu'à mon retour. » Kouroglou dit « Le diable emporte l'ennemi. Les braves galopent sur des chevaux arabes. Allez, buvez jusqu'à mon retour. » Ayant dit cela, Kouroglou prit congé de ses frères, monta sur Kirat et marcha seul jour et nuit de bourgade en bourgade vers la ville d'Orpha. Il n'en était plus qu'à un fersac de distance quand il se sentit une faim extrême. Et voyant un berger qui gardait son troupeau sur la pente d'une colline, il lui dit, et il se dit, « Le proverbe est bon, si tu as faim, va au berger, si tu es là au chamelier. Maintenant réfléchissons un peu de quelle façon j'attraperai à déjeuner. » Alors il s'approcha et s'écria, « Que Dieu te bénisse, berger, ne peux-tu me donner à déjeuner ?» Le berger leva la tête, et voyant un guerrier dont l'armure à elle seule aurait pu acheter son troupeau et lui-même par-dessus le marché, il répondit, « Jeune homme, je n'ai point de mets digne de toi, mais si tu peux t'accommoder de l'aide brebis, je vais t'en chercher. » Kouroglou dit, « Dans ce désert, une goutte de lait vaut le monde entier. Va en chercher, me la porte. » Le berger était d'une haute stature et taillé carrément. Il tenait dans sa main une énorme massue dont la tête était armée de clous, de vieux fers de lance, de fers de chevaux cassés et de tout ce qu'il avait pu se procurer de tranchant. Cela pesait 1 mène et demi, environ 22 livres anglaises. Une courroie passée dans un trou la suspendait à son poignet. Le berger leva la masse, et à ce signal, toutes les brebis se réunirent autour de lui. Il avait aussi avec lui une écuelle de bois que les Kurdes appellent moudar, et qui pouvait contenir 3 menas de lait. Men en turc balma est un emploi employé communément en Perse. L'ayant rempli jusqu'au bord, il la mit dans un vent coulre-goulou et lui donna une grande cuillerée de bois pour qu'il pût manger. Coulre-goulou en eut à peine bu quelques cuillerées qu'il se sentit très faible et dit « Berger, n'as-tu pas une croûte de pain ?»« J'en ai, » dit le berger, « mais il n'est pas fils d'homme qui puisse le manger. » Coulre-goulou reprit « Il porte un nom mangeable, et pour peu qu'il soit moins dur que la pierre, allez, donne-le-moi. » Le berger dit « C'est du pain fait d'orge et de millet, je l'ai pétri pour mes chiens. » Coulre-goulou dit « N'importe, apporte-le tel qu'il est. » Le berger répliqua « Le soleil l'a séché, il est devenu tout à fait dur et moisi, tu tromperas les dents. » Coulre-goulou dit « Ne crains rien, mon garçon, et donne-le-moi promptement. » Un sac de peau était suspendu au dos du berger. Il l'en ôta et le mit devant Coulre-goulou. Ce dernier était si prodigieusement affamé qu'il plongea ses deux mains dans le sac et, arrachant tout ce qui se trouvait sous sa main, le rompit en morceaux et le jeta dans le lait. Le berger le regardait faire. Voyant que son hôte, qui avait déjà préparé de la nourriture pour 15 personnes, n'interrompait pas sa besogne, il se dit à lui-même « Mais la faim l'a rendu fou, car assurément nul fils d'Adam ne pourrait avaler tout cela. Quand il aura mangé 5 ou 6 cuillerées, il jettera le reste. Avec ce qu'il a apprêté pour lui, je pourrais nourrir une semaine entière toute la meute de chiens qui garde mon troupeau. » Pendant ce temps, Coulre-goulou émiettait le pain et en remplissait l'écuelle. À la fin, enfonçant la cuillère qui resta sans remuer dans la position verticale, il leva les yeux et vit le berger qui était debout en contemplation devant lui. Il lui dit « Assieds-toi, berger, et mangeons ensemble. » Le berger répliqua « Bègue, tu as préparé toi-même le repas, mange-le tout seul, car je ne puis t'aider. » Alors, Coulre-goulou prit la cuillère et se mit à l'œuvre. Ses énormes et rudes moustaches gênaient le passage, et le pain lui sortait de la bouche tandis que le lait coulait dans sa poitrine. Coulre-goulou, en colère, jeta la cuillère, et relevant ses moustaches qui allaient par-delà ses oreilles, il ouvrit une bouche semblable à l'entrée d'une caverne, et prenant l'écuelle de ses deux mains, il avala le contenu jusqu'à la dernière goutte. Le berger le regardait avec stupeur, se disait en lui-même « Mais par le Saint-Nom d'Allah, ce ne peut être là un homme, car aucun être humain ne pourrait avaler une telle quantité de nourriture. » Encore une fois, je le répète, voyons, au nom d'Allah, ce qui va arriver. S'il s'enfuit maintenant, ce sera le vampire du désert. Le fantôme du désert, Ghulib Yaban, le vampire bien connu des contes orientaux. Le vampire du désert ou Satan lui-même? Ah, s'il reste, c'est un fils des hommes. On dit que la famine incarnée est arrivée sur la terre. C'est là sûrement la famine. Il vient de manger tout le lait de mes brebis. Mais au bout d'une heure, il aura faim de nouveau, et alors il me dévorera moi-même. Et Coulre-goulou pensait en lui-même, « Comment vais-je faire pour me rendre à Orpha et voir Ibbaz ? Si je me monte sous ce costume et monté sur ce cheval, mon nom et ma gloire sont trop bien connus en tout pays pour que je ne sois pas découvert. Prenons plutôt les habits du berger et entrons ainsi dans la ville. » Il dit donc au berger, « Viens là et faisons l'échange de nos habits. » Le berger se mit à rire et lui dit, pourquoi me railler ainsi sur ma pauvreté? Le châle seul qui est sur la tête, ou celui qui entoure tes reins, ou bien encore le poignard qui est passé dedans, serait chacun suffisant pour racheter mon sang. Racheter mon sang, allusion au jute aïoniste du Coran. Le meurtrier doit payer les parents de la victime avec sa vie ou avec de l'argent. Et mon troupeau avec. Pourquoi te moquer ainsi de moi ? Cela dit, il cracha dans la paume de ses mains, saisit sa massue et, la brandissant d'une façon menaçante, il dit à Koulaglou : toi, si confiant dans la largeur de tes épaules, regarde aussi la largeur de mon cou. Koulaglou sourit et lui dit : mais berger, je te jure devant Dieu que je ne me ris pas de toi. Il y a dans cette ville un marchand qui me doit 1500 tuments. Environ 12 francs. Si je parais devant lui sur ce cheval et dans ce costume, il m'échappera. Je suis venu pour une raison importante. Faisons vite notre échange. Si je reviens, je te rendrai tes habits et reprendrai les miens. Si je ne reviens pas, tu pourras conduire ce cheval au bazar et le vendre. Son prix est de 2000 tuments. Profites-en et ne m'oublie pas dans tes prières. Tu garderas aussi les autres choses qui m'appartiennent. » Le berger dit, assurément, « cet homme est fou. Je ne puis expliquer autrement tout ce que j'entends. Allô, bègue, déshabille-toi. » Kouroglou détacha sa ceinture et ôta tous ses habits. Le berger en fit autant de son côté et mit les vêtements de Kouroglou, auquel il donna son manteau de feutre grossier. Koulaglou le jeta sur ses épaules, et ayant mis aussi le bonnet de feutre du berger, il lui dit « maintenant, donne-moi ta massue !» Car il voyait qu'en cas de besoin, elle pourrait lui être aussi utile qu'un sabre. La prenant à sa main, il dit « berger, ton âme est l'âme de mon cheval !» Phrase proverbiale très usitée chez les Persans, elle signifie « prends soin de mon cheval comme tu voudrais qu'on prie soin de toi-même. » Le berger répondit « je jure par la foi de Dieu que ton cœur soit en paix, tu peux te fier à moi. » Et il disait en lui-même « Dieu veuille que cet homme ne revienne jamais, alors adieu la pauvreté. » Le cheval et les vêtements me suffiront aussi longtemps que je vivrai. » Kouroglou prit congé du berger et continua son voyage à pied. Le manteau du berger était sur ses épaules, la massue dans sa main. Il aperçut bientôt la ville d'Orfa et marcha jusqu'aux portes. Ayant prononcé le mot « Bismillah » au nom de Dieu, il entra et il passait dans une rue quand il vit un Turc portant un roquin de viande. Il la regardait avec amour, priant et soupirant en même temps. Koulaglou lui demanda en langue turque « quelle viande portes-tu là, que tu la convoites ainsi et sembles soupirer après ?» Le Turc répondit « es-tu donc étranger, seigneur, ou viens-tu de quelque contrée éloignée ?» Kouroglou dit « oui, oh, je viens de loin. » Le Turc lui dit alors « ne sais-tu pas que dans les autres pays le pain est cher, tandis que dans celui-ci c'est la viande qui est chère ? J'ai une personne malade chez moi à laquelle le médecin prescrit la viande. » Je vais chaque jour au bazar, mais je regarde en vain, je ne puis en trouver. Aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé de la viande dans la boutique d'Aïvaz, fils d'Ibrahim le boucher. J'ai été obligé de payer alors 2 piastres. Et c'est là ce qui me fait soupirer. » Kouroglou demanda, « se peut-il que la viande soit aussi chère ?»« Oui, en vérité, » dit le Turc, « 2 piastres pour un okaz, c'est énormément cher. » Kouroglou dit en lui-même, « bonne nouvelle pour mon berger. Attends seulement un peu, maudit. Aujourd'hui même, je vendrai tes moutons. » De là, Kouroglou s'en fut vers la boutique d'Ayvaz, devant laquelle il aperçut une foule de gens mêlés ensemble comme les plis d'un manteau froissé. Les hommes venaient là pour acheter de la viande, les femmes pour admirer la beauté d'Ayvaz. Kouroglou, désireux de le voir aussi, regardait par-dessus les épaules de ceux qui étaient devant lui. Les Turcs, le jugeant d'après son costume, le prirent pour un berger et commencèrent à le frapper sur la tête. Alors Kouroglou se baissa dans l'intention de regarder à travers les jambes, mais il s'exposa ainsi à de plus graves insultes. « Je ne puis dompter ces Turcs grossiers, dit-il. Comment puis-je espérer d'enlever Ayvaz ?» Il se mit à coudoyer de droite et de gauche, et crachant dans ses mains, il leva sa massue en l'air dans l'intention de se frayer un passage en poussant et frappant coup sur coup. Celui qui eut la tête frappée eut le crâne brisé. Celui qui reçut le coup sur la jambe eut la jambe cassée. Celui qui le reçut sur les épaules resta sur la place. De cette manière, il chassa tout le monde de la boutique d'Ayvaz quand il l'aperçut assis et tenant tristement sa tête dans sa main. Kouroglou dit dans son cœur « Un vrai loti, loti non fameux en Perse, il tient le milieu entre le brave Vénitien et l'aventurier français. Un vrai loti possède 6 tours, 5 d'adresse et 1 de force, je ne crois pas pouvoir effrayer cet enfant. » Il s'approcha alors d'Ayvaz, mit la main dans sa poche et, prenant une piastre, il la jeta devant Ayvaz en lui disant « Frère, pèse-moi un orca de viande et rends-moi le reste en monnaie de cuivre. Seulement, sois prompt, mes compagnons sont partis, il faut que je coure les rejoindre. » Ayvaz se dit « voilà une bonne pratique pour moi. Je vends à Oka de viande 2 francs, il ne m'en donne qu'un, et me demande son reste en monnaie, et cela promptement parce que, dit-il, ses amis sont partis. » Ayvaz était orgueilleux à cause de sa beauté, et il dit avec aigreur, « Viens ici, approche-toi plus près, maître niais. Que veux-tu dire ?» Kouroglou s'approcha d'Ayvaz, et celui-ci, ayant plié un de ses doigts, lui donna un bon coup sur la joue avec les 4 autres. Kouroglou dit « Jeune espiègle, pourquoi me frappes-tu ?» Mais il était joyeux dans son cœur, et il ne ressentait aucune colère de cette preuve de courage. Ayvaz repartit « Mais drôle, tu veux déprécier ma marchandise ?» En présent de tant de pratiques, tu veux acheter à l'Oka de viande pour 1 sou et avoir encore du retour, tandis que je vends à l'Oka 2 livres. » Kouroglou dit, « Tu es un enfant. Ce n'est pas pour acheter de la viande, mais pour en vendre que je suis venu ici. » « Que veux-tu dire ?» demanda Ayvaz. « Mais sot que tu es !» répliqua Kouroglou. « J'ai 900 moutons à vendre et je venais ici pour connaître le prix réel de la viande, savoir si elle est chère ou bon marché. » On dit avec vérité que la raison abandonne la tête d'un boucher quand il entend le bêlement d'un troupeau. Ayvaz n'eut pas plutôt entendu parler de 900 moutons qu'il dit « Oh mon oncle, je ne savais pas que tu étais un maître berger. » « J'ai été grossier dans mon langage. Tu es en droit de me couper la langue. Je t'ai frappé. Coupe-moi la main. Pardonne seulement ma faute. » Kouroglou fit l'improvisation suivante. Improvisation. « Tu frapperas l'ennemi armé, fut-il enveloppé dans un feuillet du Coran. Mon futur enfant, lumière de mes yeux, je ne me fâche pas de semblables bagatelles. Ivan dit alors: Mais pour l'amour de Dieu, mon cher Seigneur, que personne ne sache que tu as amené 900 moutons. Notre ville a 50 bouchers, ils vont tous se persécuter, et tu seras obligé de diviser ton troupeau entre tous, de sorte qu'il n'y en aura pas plus de 20 pour ma part. Tu feras bien d'attendre ici et de t'asseoir, tandis que je vais aller chercher mon père. Nous achèterons à nous seuls tout ton troupeau, et nous seuls te donnerons l'argent. » Koulanglou répondit: « Va donc, je t'attendrai ici. » « Reste, dit Ayvaz, tu vois ici 12 quartiers de viande. Bah, s'il vient quelque pratique, tu leur vendras alors qu'à 2 piastres, s'ils ne veulent pas attendre que je sois revenu pour fixer le prix moi-même. » Kouroglou répliqua: « Va et repose-toi sur moi. J'ai été boucher 17 ans et je connais mon état. Je vendrai bien à ta place. » Ayvaz laissa la boutique à la garde de Kouroglou et courut chercher son père. Bientôt après, un Turc qui venait pour acheter de la viande vit Koulanglou et pensa en lui-même: « Comment acheter d'un pareil monstre? Je suis vraiment effrayé de lui. » Ainsi ruminant, il allait de long en large. Koulanglou le vit et lui dit: « Tu vas et viens comme si tu étais malade. De quoi as-tu besoin ?» Le Turc prit une piastre dans sa poche et demanda un demi-orca de viande. Kouroglou lui dit de mettre l'argent sur l'étal et d'entrer dans la boutique. Ayant choisi une tranche de la meilleure viande, « Prends-la toute !» lui dit-il. Le Turc, pensant qu'il y avait quelque tricherie là-dessous, ou bien qu'on voulait se moquer de lui, répondit: « Non, tout ce que j'ai à recevoir, c'est un demi-oca de mouton, et je n'en prendrai pas davantage. » Kouroglou leva sa massue sur lui et s'écria: « Es-tu sourd ou stupide? Je te dis de prendre tout. » Le Turc dit dans son âme: Il faut toujours profiter de l'occasion, je vais essayer de prendre tout. S'il ne me dit rien, il aurait évidemment perdu le sens. Si c'est le contraire, je jetterai la viande par terre et je me sauverai. » Il entre dans la boutique lentement et avec timidité prit la viande, la mit sur son épaule, ayant pendant tout ce temps les yeux fixés sur Koulanglou. Ensuite, il quitta la boutique. Il commença à courir et tout en fuyant, il regardait souvent derrière lui. Mais personne ne le suivait. Il avait toujours quelque appréhension et il courait aussi fort que la vitesse de ses jambes le lui permettait. Il n'était pas loin de sa maison quand il rencontra quelques amis qui lui demandèrent la raison de cette hâte. « Oh, puisse votre maison ne tomber jamais en ruine ! Un fou est assis dans la boutique d'Ayvaz. Pour une piastre, il m'a donné toute une épaule de mouton. Oh, quel beau trafic! Il y a encore 11 quartiers dans la boutique. Allez vite, il vous les donnera sûrement. » Pendant que Kouroglou vendait ainsi toute la viande d'Ayvaz pour 12 piastres, ce dernier arrivait à la maison de son père, transporté de joie, et il dit: Il est venu à notre boutique un berger qui a 900 moutons. Je l'ai retenu et nous achèterons son troupeau. » Son père, Mir Ibrahim, le boucher, se rendit promptement à la boutique et dès qu'il vit Koulanglou, il lui jeta ses bras autour du cou et l'accueillit avec de grands embrassements, l'appelant bègue et ami et frère en même temps. Koulanglou pensa en son cœur: « Je t'entends, coquin, tu veux m'attraper. » Mir Ibrahim dit: « Votre nom a échappé de ma mémoire. Tout ce que je sais, c'est que vous aviez coutume de m'honorer de votre présence quand vous nous ameniez des moutons. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Mes yeux vous en cherchaient et vous désiraient. » Groglou pensait dans son cœur, « Fripon, tu achètes le pain du boulanger et puis tu le lui revends ensuite. » Expression proverbiale pour dire « Tu mens, tu m'as trompé. » Et alors il dit « Mon nom est Mouchard. » Il ne disait pas un mensonge, car tel était vraiment son nom. Le boucher sur cela commença à se plaindre. « Oh comment ! Vous aviez-vous oublié ? Et pourquoi être resté si longtemps sans voir votre ami et votre frère ?» Gouroglou répondit « Les moutons que j'avais coutume d'amener ici venaient tous de la Perse. Maintenant, Gouroglou demeure sur les frontières à Charmelibille. La crainte de ce voleur m'a retenu, mais grâce à Dieu, Gouroglou étant mort, je te fournirai désormais autant de moutons que tu peux désirer. » Mir Ibrahim, le boucher, demanda « Est-il donc vrai que Gouroglou soit mort ?»« Mort et enterré, j'ai moi-même assisté à ses funérailles. » Le boucher dit « Oh, Dieu soit loué, car vous saurez que notre pacha, ayant entendu parler de ce bandit, a défendu à mon Yaïvaz de sortir de la ville de peur que Gouroglou ne l'enlève et ne le couvre d'infamie. » Depuis 7 ans, Ivan n'est jamais sorti de la forteresse. Gouroglou disait en lui-même, « Voyez cette sale tête, il m'a enterré vivant, mais je l'aurai bientôt moi-même mis au tombeau, de sorte que chacun se moquera de lui jusqu'à la fin du monde. » Ivan, voyant qu'il ne restait plus de viande dans la boutique, crut d'abord qu'elle avait été vendue. Mais quand il regarda dans la bourse, il n'y trouva que 12 piastres et dit « Berger, puisse ta maison s'écrouler ?» Et alors il se mit à pleurer. Mir Ibrahim lui demanda la cause de ses larmes et lui dit « Père, j'ai confié à Louchan 12 quartiers de viande et il les a vendus 1 piastre la pièce. » Gouroglou répondit « J'avais entendu dire que la corporation des bouchers était renommée pour son avarice sordide. Ah, je vois que cela est exact. À chacun des 12 amis que j'ai dans la ville, j'ai envoyé un morceau de viande. Quoi qu'il en soit, vous ne perdrez rien. 12 quartiers font 6 moutons. Eh bien, quand tu viendras acheter mon petit troupeau, tu pourras en prendre 12 gratis. » Quand Mir Ibrahim entendit ces paroles, il frappa Ivaz au visage. « Retiens ta langue, imbécile, dit-il, et ne mange plus de bouc. Ton oncle Rouchan... » Cher oncle est une expression affectueuse que l'on emploie avec les personnes âgées. « Ton oncle Rouchan sait ce que c'est que d'être un homme. Il nous donnera 14 moutons. » Gouroglou vit qu'il avait perdu 2 moutons de plus et dit dans lui-même « Ta bouchée est prête, ton gosier est ouvert, il ne manque plus que la poire pour la jeter dedans. Mais la poire !» Mir Ibrahim dit « Allons, Rouchan Beg, levons-nous et allons à la maison. Nous apprêterons l'argent et réglerons nos comptes. » Ivaz ferma la boutique et ils s'en allèrent tous 3 à la maison. Mir Ibrahim pria Gouroglou de rester avec Ivaz pendant qu'il irait chercher l'argent. Quand ils se trouvèrent seuls, Ivaz s'assit sur un siège plus élevé que Gouroglou. Ivaz se leva et prit dans une niche une bouteille et un verre qu'il plaça devant lui, et alors, relevant ses manches jusqu'au coude, il remplit son gobelet de vin et le vida. Gouroglou n'avait pas bu de vin depuis quelque temps. Son cœur battait avec violence. Il contemplait tendrement l'heureux buveur et se léchait les lèvres. Ivaz dit « Rouchan, mon oncle, Pourquoi lèches-tu ainsi tes lèvres ? Kouroglou répliqua. Que je devienne ton esclave, ô phénix du paradis, quelle est cette liqueur rouge que tu bois ? Maïvaz dit, n'en as-tu encore jamais vu, mon oncle, cela s'appelle du vin ? Kouroglou reprit, mon fils, mon petit-fils, remplis-en un verre pour moi et laisse-moi le boire. Maïvaz dit alors, ce breuvage a cette mauvaise qualité qu'il rend fou ceux qui en boivent. Comment cela ? Maïvaz répliqua. Donnez-en seulement une once à un bouc et aussitôt il aiguisera ses cornes et se battra contre un loup. Donnez-en un à un poisson, il chargera un vaisseau de marchandises et naviguera le portant sur son dos pour trafiquer sur la mer Caspienne. Si tu en bois, tu deviendras fou et courras au bazar en proclamant tout haut que tu as amené 900 moutons. Les bouchers tomberont alors sur toi et te les prendront de force. Kouroglou dit, Aïvaz, puissais-je devenir la victime de tes yeux ? J'avais coutume d'en boire beaucoup. Nous en récoltons grande abondance. Aïvaz lui dit, et comment le fait-on dans votre pays ? Dans notre pays, on cueille les grappes et on les presse jusqu'à ce que le jus soit bien exprimé. Alors on en remplit un vase que l'on met sur le feu. Il bout et reboue jusqu'à ce qu'il soit réduit d'un tiers et que la quatrième partie demeure. Alors nous jetons dedans du pain coupé en morceaux et nous le mangeons avec nos doigts. Maïvaz dit, puisses-tu mourir, oncle, tu m'as compris merveilleusement. La chose dont tu parles s'appelle dushab. Dushab, pâte sucrée préparée de la manière ici décrite, dont on fait communément usage dans l'Orient au lieu de confiture ou de sucre. Comment, alors qu'est-ce donc alors que tu bois ainsi, mon enfant ? C'est du vin ? Bien, bien, je le vois à présent. Oh, nous en avons en abondance dans notre pays. Et comment le faites-vous dans votre pays, mon oncle ? Nous prenons de la crème que nous mettons dans un sac de cuir et puis nous le secouons jusqu'à ce que le beurre paraisse à la surface. On met le beurre dans le pilon et l'on boit ce qui reste. Mais puisses-tu mourir, oncle ? Ceci est le habdouk, lait de beurre. S'il en est ainsi, pour l'amour de Dieu, laisse-moi y goûter. J'ai peur, mon oncle, que tu deviennes fou quand on aura bu. Kouroglou réitéra sa demande jusqu'à ce qu'enfin Aïvaz, touché de pitié, consentit à lui en donner un verre. Oh Dieu ! S'écria-t-il, maintenant je mourrai heureux, car Aïvaz m'a offert à boire de ses propres mains. Il vida le verre et, comme il n'avait mouillé qu'une de ses moustaches, il dit « Donne-moi un autre verre pour l'autre moustache !» Il continua ainsi de boire et eut bientôt vidé la bouteille jusqu'à la dernière goutte. Aïvaz dit alors d'une voix irritée « N'oublie pas que ce n'est pas du lait de beurre. Tu sentiras bientôt ta tête s'apesantir. » Kouroglou dit, « Mon petit oiseau de paradis, tu ne penses à personne qu'à toi, mais regarde-moi aussi. » Cela dit, il se leva, et s'apercevant qu'il y avait encore 6 bouteilles d'eau de vie dans la niche, il les prit l'une après l'autre et les vida jusqu'à la dernière goutte. Aïvaz s'écriait, « Mais ceci n'est pas du vin, mais de l'eau de vie, rustre. Pourquoi en as-tu bu plus d'une ?» Kouroglou dit, « Ô perroquet du paradis, elles se mêleront dans mon ventre. » Aïmaz était fâché et se disait « Mais il est ivre, il va bientôt tomber endormi. Alors comment achèterons-nous ces moutons ?» Kouraglou prit un siège et, regardant Aïvaz que le vin incommodait un peu, il prit une guitare et, commençant à jouer, dit « Aïvaz, que je sois ton esclave, laisse-moi tirer quelques sons de la guitare. »« Quoi, sais-tu donc en jouer, oncle ?» Kouraglou dit « Quand j'étais un enfant, un simple petit berger, mon père fit une petite guitare pour moi avec un morceau de cèdre. Il y mit des cordes faites avec les crins d'une queue de cheval et j'ai appris dessus à jouer un peu. » Aïvaz lui donna la guitare. Kouraglou l'accorda et elle résonnait sous ses doigts comme un rossignol. L'enfant émerveillé écoutait avec ravissement. À la fin, reprenant son sang-froid, il demanda « Oncle, peux-tu chanter aussi bien que tu joues ?»«
Je vais l'essayer, chanter, si tu me le permets. Que voulons-nous faire de mieux ? Nous sommes tous deux gris. Si je chante pas ici, où chanterai-je donc ?»
Cela dit, il chanta l'improvisation suivante. Improvisation. « Remplissons nos verres et buvons, buvons, fils du boucher. Mais il ne faut pas répéter mes paroles, la rosée est descendue sur les joues de la rose. Tu as vidé la coupe, tu es gris même, ivre mort, tu es ivre, ivre mort, toi aujourd'hui, fils du boucher, mais qui sera bientôt le mien ?» Quand Aïvaz eut entendu ces vers, il demanda « Oncle, as-tu jamais vu Kouraglou ?» Kouraglou fit l'improvisation suivante. Improvisation. Les roses du jardin sont en pleine floraison. Les rossignols amoureux chantent, les vallées de Chantlibil sont obscurcies par de nombreuses tentes. C'est là qu'est ma demeure, ô fils du boucher. » Ici, Kouraglou s'arrêta et se dit « Si je terminais cette chanson par le nom de Kouraglou, le pauvre enfant mourrait de frayeur. Restons encore berger un peu de temps. » Il chanta l'improvisation suivante. Improvisation. « Dois-je le confesser ? Non, je suis berger. La vie des êtres créés doit avoir une fin. » Quand je tire de l'arc, ma flèche traverse le roc, ô fils du boucher. » Comme il disait ces mots, le père d'Aïvaz, Mir Ibrahim, entra dans la chambre avec l'argent destiné à l'achat des moutons et dit « Lève-toi, ô Chanbeg, et allons où est le troupeau afin de terminer notre marché. » Kouraglou, voyant qu'Aïvaz ne bougeait pas, dit « Mir Ibrahim, l'enfant ne viendra-t-il pas avec nous ?»« Il faut qu'il reste à la maison. Le pacha lui a défendu de quitter la ville, ainsi que je l'ai dit. » »« N'as-tu pas honte d'avoir peur du cadavre de Kouraglou ? Vous croyez le premier diseur de bonne aventure ? Pourquoi ne me croiriez-vous pas ? Je te répète que Kouraglou est mort depuis plus d'un mois. Maintenant, sois franc. Ce n'est pas Kouraglou que tu crains, mais tu as peur que je te force à être reconnaissant quand j'aurai fait don à Aïvaz de 30 moutons. » Lorsque le boucher eut entendu qu'il s'agissait encore d'un présent de 30 moutons, il perdit la tête. Il donna à Aïvaz un vigoureux soufflet sur la face et s'écria « Lève-toi, niais, et fais un grand salut à Rouchanbeg. C'est un homme libéral, c'est un grand homme, et sa parole est une parole. » Aïvaz, qui était excité par le vin qu'il avait bu, non moins que tout ce qu'il venait de voir et d'entendre, sentit un frisson de terreur dans tout son corps, et il pensa dans son cœur « Mais cet homme doit être Couroglou lui-même ou quelqu'un de sa bande. » Il prit sa guitare et dit « Père, laisse-moi chanter une chanson et je vous accompagnerai ensuite. » Improvisation. Père, ne confonds pas mon entendement. Un homme comme lui ne peut être un berger. Tu n'as qu'un fils, songe-y. Ne l'emmène pas. Un berger ne doit pas avoir cet air-là. J'ai comparé ses paroles avec ses actions. C'est un fou étrange. Son amitié et sa haine ne durent qu'un moment. Ce doit être Couroglou lui-même ou Dali Hassan. Cet homme ne ressemble certainement pas à ton berger. Couroglou, entendant cela, sortit et pensa « Cet enfant est pénétrant. C'est le fils qu'il me fallait. » Aïvaz continuait ainsi. Improvisation. Père, ces marchands trafiquent dans les quatre parties du monde. 1000 serviteurs des deux sexes vivent à ses dépens. Il n'aime aucun compte, mais distribue libéralement ses dons par 5 et par 15. Crois-moi, un berger n'a pas cet air-là. Mir Ibrahim dit « Que faut-il faire, mon fils? Comment aurons-nous les 900 boutons ?» Aïvaz continua et chanta. Improvisation. Envoyez-le, envoyez-le où nul œil ne pourra le voir. Que pas un autre, pas un voisin ne s'aperçoive de sa venue, qu'on ne le voit même pas dans le sommeil. Un homme de cette apparence ne peut être, croyez-moi, ne peut être un berger. Le nom d'Aïvaz est attaché à cette chanson. Un signe en forme de croix a déjà été brûlé sur ma poitrine. Je sais, entendez bien, ce qui va tomber sur ma tête. Père, Aïvaz ne sera pas ton fils plus longtemps. » Couroglou, voyant qu'Aïvaz avait deviné ce qu'il était, se pencha doucement vers lui et lui dit à l'oreille « Méchant enfant, pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi voir le troupeau? Je te montrerai 4 belles cages attachées au dos d'un jeune âne. Chacune d'elles contient quantité d'alouettes, de cailles, de perdrix aux jambes rouges, de rossignols et une foule d'oiseaux chanteurs. Aussitôt que nous serons arrivés, je t'en ferai présent, ainsi que des 4 cages. Tu les pendras dans la boutique, où ils chanteront et gazouilleront sans fin. Et tandis que tu écouteras leur ramage, tu seras réjoui. » Aïvaz alors pleura et dit « Je ne puis m'en défendre. Viens, père, allons. » « Oui, allons, mon enfant. Notre ami Rouchanbeg empêchera bien que tu sois arrêté aux portes de la ville. Nous allons aussi prendre un esclave avec nous. » Ainsi, après avoir pris l'argent pour payer les boutons, Aïvaz, Couroglou, Mir Ibrahim et l'esclave se mirent en route. À un fersac de distance d'Orfa, ils arrivèrent à la montagne dont il a été parlé, sur laquelle le berger faisait paître ses moutons. Quand le boucher aperçut de loin le troupeau, il fut réjoui dans son cœur et dit « « Est-ce là ton troupeau, Rouchanbeg ?»« Ce l'est. Commençons donc notre marché. Nous conviendrons d'abord de prix et nous examinerons ensuite combien il y a de boutons gras et en bon état, et combien de maigres et d'estropiés. Qu'il en soit ainsi, fais comme il te plaira. Combien as-tu de moutons ?»« Je t'ai dit ce matin que j'en avais 900. » Combien de maigres et combien de gras? Bon, je n'ai jamais de bétail maigre, mâle ou femelle. Tous mes moutons sont gras et en bon état. Aucun d'eux n'a plus de 2 ans et les brebis n'ont pas encore agnelé. Bien. As-tu acheté ces moutons ou les as-tu élevés?
Un menteur est pire qu'un chien, je te dirai la vérité. J'en ai acheté la moitié, j'ai élevé moi-même l'autre moitié. Ou bien veux-tu les vendre à la pièce? Je veux les vendre en bloc. À quel prix? Maudit soit celui qui ment, je te dirai la simple vérité. Je les ai achetés 5 piastres chacun et tu les auras pour 6. Il faut bien que j'aie au moins 1 piastre de profit dans le marché. Je ne désire pas en avoir davantage avec toi. Pendant qu'il marchandait ainsi, l'oreille d'Aïvaz suivait chaque parole qu'il prononçait. Il dit tout bas à son père, « Je lui ai fait boire du vin, il ne sait pas ce qu'il dit. On ne peut pas acheter un mouton moins de 5 tuments. Comptez l'argent sans délai, père, et lorsqu'il l'aura reçu, il ne pourra plus se rétracter, quand même il recouvrerait la raison. » Mir Ibrahim rouvrit le sac où était l'argent, qu'il compta, et versa ensuite dans le pan de la robe de Kouroglou. Ce dernier, voyant que plus de la moitié était déjà payée et que le compte avançait rapidement, dit dans son cœur « Mais comment me débarrasserai-je de ce fripon de Turc ?» Il possédait une force de poignet si extraordinaire qu'il pouvait serrer entre ses doigts une pièce de monnaie assez fort pour en effacer l'empreinte. Ayant ainsi effacé une piastre, il la jeta avec colère devant le boucher et s'écria « Mais ceci est de la fausse monnaie !» Mais la ruse n'avait pas échappé à l'œil perçant d'Aïvaz qui dit « Oh, jamais, nous ne sommes pas riches. Nous avons emprunté la moitié de cet argent. Pourquoi l'altères-tu méchamment ?» Kouroglou répliqua « Aïvaz, mon enfant, je n'ai ni marteau ni enclume avec moi. Les coquins d'ouvriers de la monnaie ont oublié de frapper les chiffres du sultan sur la piastre. Et il faudra que je perde dessus. » En disant ces mots, il se leva, jeta tout l'argent par terre et dit d'une voix irritée « Il y a 100 bouchers de Orfa, je leur vendrai une portion de mouton et je vous vendrai l'autre. » Et il s'éloigna. Les prières du boucher furent inutiles et Kouroglou était sur le point de partir lorsque Mir Ibrahim, au désespoir, dit à son fils « Puisses-tu mourir jeune ?»« Mourir dans ton jeune âge, Djenel Mirgsi et aussi Mirgitu, tu la mort » sont deux étranges expressions de tendresse employées par les Perses quand ils veulent obtenir une faveur de quelqu'un ou le flatter. Aïvaz, va, allez, cours après lui et prie-lui de venir terminer le marché. Peut-être t'écoutera-t-il. Aïvaz y rejoint Kouroglou en un moment, et le prenant par les mains, il le supplia en disant « Je t'en conjure, mon oncle, ne sois pas fâché, reviens. » Kouroglou, faisant semblant de s'adoucir, revint et s'assit à sa première place. Quand l'argent fut tout compté, on s'aperçut qu'il manquait encore 30 tuments. Le boucher dit « Ulshan Beg, laisse le berger amener ici les moutons. Nous les conduirons à la ville où je lui paierai le reste de la somme. Tu dormiras dans ma maison et tu partiras demain matin. » Kouroglou répliqua « Je n'irai pas, Orfa, car j'ai entendu dire que ceux qui passent la nuit avec de l'argent sont assassinés. Il faut que tu me payes toi-même ici. »« Mais je ne suis pas un voleur, Ulshan Beg, cependant je ferai comme tu l'ordonnes. Reste ici avec Aïvaz, et toi, mon enfant, sois gai et amuse notre oncle par ta conversation pendant que je courrai à la ville chercher le reste de l'argent. » Ainsi le boucher sans cervelle laissa son fils entre les mains de Kouroglou
et enfourchant sa maigre rosse, il partit pour Orfa. Kouroglou, sous prétexte d'aller chercher les quatre cages qu'il avait promises à Ivaz, laissa ce dernier avec l'esclave tandis qu'il retournait vers le berger. Il reprit son armure ainsi que ses 17 armes. Alors il demanda au berger « Où est mon cheval ?»«
Oh, puisse ta maison tomber en ruine, ton cheval est aussi fou que toi-même. Je l'ai attaché par les quatre jambes dans ce ravin, et je ne peux pas dire s'il est mort ou s'il est vivant. »
Kouroglou lui dit « Misérable, je souillerai le tombeau de ton père. Tu as fait du mal à mon cheval, fils de chien !» Et il courut s'en aller vers le ravin, où il vit son kirat attaché d'une telle façon qu'il ne pouvait bouger. Il détacha les liens de son cheval, le sella, serra la sangle, puis l'ayant embrassé sur les deux yeux, il monta dessus et galopa vers Ahiraz. Il prit d'abord le sac de piastres qu'il attacha derrière la selle avec des courroies. « Allons, maintenant, mon Ivaz, monte avec moi sur ce cheval et partons. »«
Guerrier, tu te moques de moi. Mon oncle Roucham sera bientôt ici et tu feras démonter par un seul coup de sa massue. »«
Frotte les yeux, Ivaz, et regarde. » « Ne reconnais-tu pas ton oncle ?»
Ahiraz l'examina attentivement. « Oui, c'est lui, dit-il, c'est Roushan Beg lui-même, seulement son habit n'est pas le même. »
Il commença à pleurer et s'écria
« Oh ma mère, oh mon père, où êtes-vous ?»
Ses larmes et ses prières lui servirent peu. Kouroglou l'enleva sur sa selle, le plaça derrière lui. Ayant lié un châle autour de son corps et de celui d'Ahiraz, il assujettit ce dernier à sa ceinture. Ensuite, il donna un coup d'éperon à son cheval, le fouetta et emporta sa proie. Le crédule esclave du boucher pensait que tout cela n'était qu'un jeu. Cependant, il courut après lui et cria
« Trêve à ce jeu, trêve à cette plaisanterie !»
À la fin, il se fâcha, sortit un poignard du fourreau, et l'élevant devant Kouroglou, il dit
« Laissez cet enfant ou je vous passe ce fer à travers le corps !»
Kouroglou dit « Voyez ce reptile, il faut que je montre quelque merci envers lui. » Alors il lança sa massue après lui, et le crâne de l'esclave fut écrasé comme la tête d'un pavot. Le berger, qui vit ce meurtre, devint soucieux, et tremblant de frayeur, il commença à réciter les prières des mourants. Kouroglou lui ordonna d'approcher et d'ouvrir ses oreilles. Alors il délia sa bourse, en fit tomber bon nombre de piastres et lui demanda « Berger, as-tu vu un chameau ?» « Avez-vous vu le chameau, conte perse bien connu, est devenu maintenant un proverbe ?» Le berger répliqua « Je n'ai même pas vu un mouton. » Kouroglou dit « Berger, tu vas conduire à l'instant ce troupeau à la ville. Pendant ce temps, j'enlèverai Ahiraz. » Ainsi le berger conduisit son troupeau à Orfa, tandis que Kouroglou emmenait Ahiraz à Chanlibil, et l'enfant désolé criait douloureusement «
Malheur à moi, je laisse ma tante derrière moi, j'abandonne la femme de mon oncle, malheur à eux, malheur à moi !»
Ses yeux étaient rouges et enflés comme des pommes. Kouroglou fit l'improvisation suivante. Improvisation. «
Je te dis, Ahiraz, il ne faut pas pleurer.
Ne tourmente pas mon cœur de tes regrets, ne te lamente point, Ivaz. » Ce dernier, en réponse, fit l'improvisation suivante. Improvisation. « Mais tu dis qu'il ne faut pas pleurer, mais comment puis-je retenir mes larmes, au Kouroglou ? Tu me dis de ne pas te tourmenter de mes chagrins, mais comment puis-je m'empêcher d'être triste ?» Alors Kouroglou chanta. Improvisation. « Je revenais des champs, je revenais des déserts, et je demandais au berger s'il ne t'avait pas vu. Je t'ai séparé de ton vieux père. Hey, Ivaz, ne pleure pas. » Ivaz chanta ainsi. Improvisation. Tu as rempli les sacs avec l'argent. Tu as déchiré le fond de mon cœur. Tu as courbé sous le chagrin le dos de mon père. Mais comment puis-je m'empêcher de pleurer, ô Kouroglou ? Kouroglou chanta. Ne suis-je pas bègue, ne suis-je pas Khan ? Ne serais-je pas pour toi un père, un tendre parent ? Ne crie pas, ne pleure pas, Ivaz. Ivaz chanta alors. Mes fleurs, je vous ai laissées dans le jardin. J'ai laissé derrière moi des beautés dont la ceinture mérite d'être embrassée. J'ai laissé derrière moi mon nom et ma famille. Mais comment puis-je retenir mes larmes, ô Kouroglou ? Kouroglou chanta. Plus de larmes, je t'en conjure, ou tu me feras pleurer moi-même comme un enfant ou une vieille femme. Tu deviendras un guerrier, tu seras la gloire et l'orgueil de Kouroglou. Ne pleure plus. Ivaz dit. J'ai ouï dire que tu étais un guerrier. Tu dois alors me traiter comme il convient à un guerrier. Je ne puis dire si tu es un homme brave ou un vilain. Comment puis-je donc m'empêcher de pleurer ? Kouroglou lui promit d'en faire son fils, de le faire vivre dans l'abondance et de faire de lui un guerrier, et ils continuèrent leur voyage à Chamlibil. Pendant ce temps, Mir Ibrahim, le boucher, arrive chez lui pour chercher l'argent et dit à sa femme « J'ai rencontré aujourd'hui un berger qui est un grand niais. J'étais à court de quelques tubans pour payer les moutons et je lui ai laissé à Ivan en otage. » Va et tâche de trouver l'argent promptement. » Sa femme courut chez quelques parents et amis, et ayant obtenu la somme nécessaire, elle l'apporta au boucher. Celui-ci remonta à la hâte sur sa chétive rosse et retourna vite au troupeau. Mais à peine avait-il passé la porte qu'il vit le berger entrant dans la ville avec ce même troupeau. « Berger, tu es un fripon, un voleur ! De quel droit amènes-tu mes moutons à la ville ? Je les ai achetés, je les ai payés. » Le berger dit, « Je te comprends pas. » Mir Ibrahim demanda, « Quoi, n'es-tu pas le berger de Rouchan Beg ? Ben, tu rêves, comme si tu avais la fièvre. Je sais pas qui tu es, je ne puis dire non plus quel est celui que tu nommes Rouchan Beg. Misérable, ne m'avez-vous pas vendu ces moutons il y a qu'un instant ? N'avez-vous pas pris l'argent ? Arrière avec ton mensonge. Les brebis sont la propriété de Rayyan l'Arabe et je les amène en ville pour les traire. Les brebis que l'on traite dans la place du marché se vendent à meilleur prix. » À ces mots, le boucher sentit une sueur froide lui venir à la peau. Il descendit pour tâter les mamelles des brebis et s'aperçut qu'elles avaient toutes du lait. Il dit, « Ce hableur, Rouchan Beg, me disait, en me vendant son troupeau, qu'il ne s'y trouvait que des mâles ou des brebis qu'il n'avait jamais portés. Sans aucun doute, c'était Kouroglou, qui, après m'avoir trompé, doit avoir emmené Ivaz avec lui. N'as-tu pas vu le jeune garçon sur la montagne ?» Le berger dit, « Oui, j'ai vu deux jeunes garçons jouant et luttant ensemble sur la montagne. » Mir Ibrahim remonta sur sa rosse en grande hâte et courut au galop. Il ne trouva sur la montagne que le cadavre de son esclave. Sa langue resta clouée à son palais. Il commença à frapper ses tempes si violemment qu'il tomba de cheval. Dans son désespoir, il se jeta sur la terre et, répandant de la poussière sur sa tête, s'écria « Malheur à moi, il m'a enlevé mon fils !» Mir Ibrahim fut trouvé dans cet état déplorable par Reyyan l'Arabe. Ce dernier était un riche seigneur qui se rendait au-delà des montagnes pour chasser, accompagné de 160 cavaliers. Quand il se vit approcher et qu'il eut examiné les choses, il reconnut son beau-frère dans l'homme ainsi désolé. « Quoi, est-ce vous, Mir Ibrahim? Pourquoi ces larmes? Et que signifie ce désespoir ?» Le pauvre père, que la douleur privait de la parole, put seulement prononcer ces mots. « Il l'a emmené! Il l'a emmené !» Reyyan, l'arabe, demanda en colère. « Fils d'un père brûlé, qui et par qui enlevé ?» Une demi-heure se passa avant que Mir Ibrahim eût recouvré ses sens, et il dit « Je l'ai vendu à Kourouglou, il l'a enlevé, il s'est enfui. » « Parle clairement, si tu lui as vendu quelque chose, il avait le droit de prendre sa propriété. » Ce ne fut qu'après de nombreuses questions que Rayran l'Arabe dit dans son cœur « Kourouglou, tu es un misérable, tu as passé ta main, c'est-à-dire tu m'as trompé et déshonoré, tu as passé ta main crasseuse sur ma tête et enlevé le gibier de mes réserves. » Il appela ses cavaliers et dit « Enfant, je vais courir après lui, suivez-moi. » Alors ils galopèrent à la poursuite de Kourouglou, guidés par les traces des pas de son cheval. Reyyan l'Arabe était monté sur une jument. Kourouglou continuait de marcher sans être averti de rien, quand il vit Kirat secouer ses oreilles. C'était un signe certain de la présence de la jument à environ 1 mille de distance. Kourouglou dit dans son cœur Okiria doit sentir la jument de Reyyan l'Arabe. Celui-ci a sans doute tout appris et me poursuit maintenant. » Il regarda le ciel et vit quelques oies sauvages passer au-dessus de sa tête. Kourouglou pensa « Je vais décocher une flèche au guide de la bande. Si l'oiseau tombe, je serai vainqueur, mais si la flèche revient seule, Aïvaz ne sera pas à moi. » Il prit une flèche de son carquois, et après l'avoir placée sur son arc, il l'envoya dans l'air. En très peu de temps, l'oie descendit et vint tomber au pied de son cheval. Kourouglou se sentit très heureux. Il arracha une couple des plus belles plumes de l'oie, et ôtant le bonnet d'Aïvaz, les attacha en guise de plumet à sa calotte. Aïvaz dit « Tu as fait des trous avec ces plumes dans ma calotte. J'ai une belle nièce qui m'en fera une neuve. »« Oh, mon fils, répliqua Kourouglou, aussi longtemps que tu demeureras dans ma maison, tes habits seront d'or et de soie. » En entendant cela, Aïvaz pleura amèrement. Kourouglou, pour le consoler, improvisa la chanson suivante. Improvisation. Que ta tête semble belle avec cette plume, c'est comme la tête d'une grue mâle. Je la garderai. Je tournerai autour de ta tête. Expression prise d'une coutume orientale, quand un malheur menace quelqu'un afin de le prévenir, on fait tourner un mouton noir 3 fois autour de lui. Et on en fait ensuite présent aux pauvres ou bien on les fait pendre. Et quand le chat de Perse visite un village, les paysans vont au-devant, baisent le pan de sa robe ou de son éperon, ils demandent comme la plus grande faveur la permission de tourner autour de son cheval, de là l'expression donnée « Begerdurer Begerden », c'est-à-dire « j'implore, je demande sur tout ce qu'il y a de plus sacré ». Je veillerai soigneusement sur elle. Je t'ai cherché dans le ciel et je t'ai trouvé sur la terre. Ne pleure pas, ma jeune grue. La ligne arquée de tes sourcils a été dessinée par la plume du Tout-Puissant. Tu es juste en âge, tu as 15 ans, ô jeune garçon. À tous ces ornements, un seul manque encore, c'est celui des exploits chevaleresques. Tu seras le modèle d'un guerrier. Je couvrirai ta tête d'une calotte d'or. Ô ma jeune grue, ne pleure plus. Et après une pause, Kouroglou chanta. Je te vis et mon cœur fut heureux. Tu trouveras en moi un franc Turcoman Tuka. Mon nom est Kouroglou le bélier. Je suis bien connu dans toute la Turquie. Evaz, à la tête de grue, ne pleure plus. Retournons maintenant à Rehriban l'Arabe. Il connaissait parfaitement tous les chemins et sentiers des environs d'Orfa. Il savait aussi que Kouroglou y venait pour la première fois et par conséquent ne connaissait pas les localités. Il y avait une passe étroite au-dessus d'un précipice qu'il fallait traverser au moyen de quelque chose ressemblant à un pont jeté dessus. Avant que Kouroglou pût avoir passé ce pont, Reyhan l'Arabe y était arrivé en faisant un détour et il se posta à l'entrée même. Kouroglou, voyant que sa route était interceptée, se détermina à gravir la montagne rapide qui surplombait le pont. Il aiguillonna Kirat avec ses éperons et le fouetta. Kirat grimpa comme une chèvre sauvage et fut bientôt debout sur le sommet. Kouroglou, regardant alors de tous côtés, ne vit rien que les murs perpendiculaires des précipices horribles. On ne voyait aucun passage. Seulement, au pied d'un des flancs de la montagne, il y avait un ravin large de 12 mètres et de 100 mètres de long, et Kouroglou demeura à méditer sur ce qu'il y avait à faire. Reynan l'Arabe dit alors à ses gens, « Mes enfants, mes âmes, pour un pas de plus, pas un pas de plus, restez où vous êtes. Pas un de vous ne pourrait monter au lieu où est maintenant Kouroglou. Il faudra qu'il y meure ou qu'il descende. » À tout événement, Kouroglou demeura 3 jours sur le sommet de la montagne, mais ce qu'il eut de pire, c'est que Kirat y tomba malade. Kouroglou tourna sa face vers la Mecque et pria. « Ô Dieu, si le jour de ma mort est arrivé, ne me laisse pas mourir parmi les sunnites. » Il regarda alors Kirat, et son cœur fut réjoui quand il vit que son cheval paissait et mangeait l'herbe avec appétit, signe évident que sa santé s'améliorait grâce à l'intercession de la sainte âme d'Ali. Il alla examiner le ravin, large de 12 mètres, et pensa, « Quel que puisse être le résultat, je veux l'essayer. Si Kirat franchit le ravin, nous sommes sauvés. S'il ne le peut pas, alors nous périrons tous trois misérablement. Moi, Kirat et Aïvaz, brisés en 1000 pièces au fond du précipice. Je ne puis attendre plus longtemps. » Il sauta sur son cheval, lia Aïvaz à sa ceinture avec une châle, et improvisa à son cheval le chant suivant. Improvisation. Ô mon coursier, ton père était Bedou, ta mère Kohan. Sus, sus, mon digne Kirat, porte-moi à Tchanluiville. Ne me laisse pas ici, parmi les mécréants et les ennemis, au milieu du noir brouillard. Sus, sus, mon âme Kirat, emporte-moi à Tchanluiville. Aussitôt que Reynan l'Arabe entendit la voix de Kouroglou, il se mit à rire et cria en bas. « Bien, maudit, tu as dit tes dernières paroles, mais que tu chantes ou non, il faut que tu descendes et tombes entre nos mains. » Alors, Kouroglou improvisa pour Kirat. Improvisation. Hélas, mon cheval, ne me laisse pas voir ta honte. Tu seras couvert de harnais de soie à ta droite et à ta gauche. Je te ferai fermer les pieds de devant et les pieds de derrière avec de l'or pur. Sus, sus, mon Kirat, porte-moi à Chamlibil. Ton corps est aussi rond, aussi mince et aussi uni qu'un roseau. Montre ce que tu peux faire, mon cheval, que l'ennemi te voie et devienne aveugle d'envie. N'es-tu pas de la race de Colan? N'es-tu pas d'arrière-petit-fils de Duldul? Duldul, nom du célèbre cheval arabe qui appartenait à Ali, gendre du prophète. Ô Kirat, porte-moi à Chamlibil vers mes braves. Je ferai tailler pour toi des housses de satin, et je les ferai broder exprès pour toi. Nous nous réjouirons, et le vin rouge coulera au ruisseau. Ô mon Kirat, toi que j'ai choisi entre 500 chevaux, sus, sus, porte-moi à Chamlibil. Ayant fini ce chant, Kouroglou commença à promener Kirat. Reylan l'arabe le vit d'en bas, et devinant que Kouroglou préparait son cheval à franchir le ravin, il dit à ses hommes « Voulez-vous parier que Kouroglou sera assez hardi pour sauter ce précipice? Son grand courage me plaît. Je vous prends à témoin que s'il franchit le ravin, je me garderai de persécuter un si brave homme. Je lui pardonnerai et lui laisserai emmener à Ivaz. S'il succombe, je rassemblerai leurs membres dispersés et les ensevelirai avec honneur. » Il dit ces mots et il regarda la montagne tout le temps à travers un télescope. Kouroglou continuait à promener Kirat jusqu'à ce que l'écume parut dans ses naseaux. Enfin, il choisit une place où il avait assez d'espace pour sauter, et alors, fouettant son cheval, il le poussa en avant. Le brave Kirat s'élança et s'arrêta sur le bord même du précipice. Ses quatre jambes étaient rassemblées entre elles comme les feuilles d'un bouton de rose. Il hésita un moment, prit de l'élan et sauta de l'autre côté du ravin. Il retomba même 2 mètres plus loin qu'il n'était nécessaire. Brayan l'arabe s'écria « Bravo! Béni soit la mère qui t'a sevré et le père qui a élevé un tel homme. » Pour Kouroglou, son bonnet ne remua pas de dessus sa tête. Il ne regarda même pas en arrière, comme s'il ne fût rien arrivé d'extraordinaire, et il s'en alla tranquillement avec Aïvaz. Rayan l'arabe dit à ses hommes « Mes amis, mes enfants, un loup à qui l'on n'ôte pas sa première proie s'enhardit et revient plus rapace que jamais. Kouroglou a enlevé aujourd'hui le fils de mon beau-frère. Demain, il viendra saisir ma femme jusque dans mon lit. Il faut lui montrer que notre orteil est assez fort pour tendre un arc. » Sur cela, ils s'élancèrent à sa poursuite. Aussitôt que Rayan l'arabe aperçut Kouroglou, il cria « Roi, parviendrais-tu à t'échapper jusqu'à Chamlibil? Je t'y attiendrai encore. » Kouroglou pensa « Ce brigand ne veut pas me laisser en paix. » Il fit descendre un Ivaz de cheval, examina la selle, les étriers, resserra la sangle et retourna au devant de Rayan l'arabe auquel il demanda « Que veux-tu de moi, mécréant ?»« Écoutez cette belle question, ce que je veux, mais tu as passé ta main crasseuse sur ma tête. » Kouroglou demanda « Veux-tu combattre avec moi comme un homme ou comme une femme ?»« Qu'entends-tu par combattre comme un homme ou comme une femme ? »
Si tu ordonnes à tes cavaliers de sauter sur moi, alors tu combattras comme une femme. Mais si au contraire tu consens à te battre seul avec moi, ce sera un combat comme il convient à des hommes. Soit nous, bon, battons-nous donc comme des hommes. Koulagoulou, qui voyait que les cavaliers de Yann l'Arabe attendaient tranquillement, rangés en ligne, dit dans son cœur, malgré ses promesses, je ne puis pas me fier à la parole des sunnites. Commençons donc par éloigner d'ici au moins une partie de ces cavaliers. Écoutez-moi, Rayan l'Arabe, j'ai coutume de chanter avant le combat. Voici mon chant. Improvisation. Guerrier Rayan, tu es venu avec une armée contre moi seul. Où est ton honneur? Où est ta valeur si vantée? Pourquoi cherches-tu à détruire mon âme? Guerrier Rayan, tu es fou! Le son de sa voix, aussi bien que le chant, était si terrible que les cavaliers de Rayan furent frappés de peur. Kouroglou continua. Montrez-moi un homme qui puisse tendre mon arc. Trouvez-moi un guerrier qui vienne frapper sa tête comme un bélier contre mon bouclier. Je puis broyer l'acier entre mes dents, et je le crache alors avec mépris contre le ciel. Oh, pourquoi ne pas combattre aujourd'hui? Les cavaliers de Rayan l'Arabe, saisis d'horreur, murmurèrent l'un à l'autre. Pour la gloire de la race d'Osman, pas un de nous n'échappera au tranchant du sabre de Kouroglou. Plusieurs d'entre eux prirent la fuite. Kouroglou dit dans son cœur, « Est-ce ainsi, fuyez donc ?» Et il improvisa. Improvisation. « Donne ordre à ton armée de se diviser par bataillon. Ah ! Ont-ils tant de confiance dans leur nombre ? Je suis seul, que 500, que 600 de vous s'avancent. Rayan est venu, il est fou en vérité. » Ce chant mit en fuite le reste des cavaliers de Rayan. Ce dernier resta seul et ne quitta pas la place. Kouroglou improvisa. Un guerrier ne chasse pas ses frères guerriers dans le couvert. Il menace avec son épée égyptienne bien affilée et levée en l'air. Pense à toi, Rayan, avant qu'il soit trop tard. Es-tu fou? Tu n'as jamais éprouvé la force du bélier, le front de Kouroglou. Tu n'as jamais eu devant toi un bras si puissant. Tu es encore là, Rayan, es-tu fou? Rayan l'Arabe était un seigneur d'un grand courage. On parlait de sa gloire et de ses hauts faits dans toute la Turquie. Kouroglou s'écria, « Retourne dans ta maison, Rayan. Regarde la fuite de tes cavaliers. » Sa réponse fut, « Ce sont tous des corbeaux. Ils ne peuvent résister à un hibou comme toi. » Cela dit, Rayan lança sa jument arabe sur le railleur, et Kouroglou de son côté donna de l'éperon à Kirat. Le choc fut terrible. Les 17 armes qu'il portait avec lui furent employées tour à tour, et cependant aucun avantage ne fut remporté de part et d'autre. Kouroglou vit que Rayan l'Arabe était un homme d'un courage et d'une habileté supérieure. Ils s'approchèrent plusieurs fois à cheval, poitrine contre poitrine et dos contre dos. Ils se prirent l'un l'autre par la ceinture. Rayan tirait Kouroglou afin de le désarçonner et criait « Tu l'emmèneras pas, Ayas !» Kouroglou le tirait aussi de dessus sa selle et criait « J'emmènerai, Ayas !» Ils descendirent de cheval en même temps. Ils commencèrent à lever à pied, le cou enlacé avec le cou, le bras avec le bras, la jambe avec la jambe. On aurait dit deux chameaux.
Les combats de chameaux sont beaucoup plus féroces que ceux de taureaux, de béliers, de bouledogues ou de coqs. Les riches oisifs en Perse parient souvent à leur sujet. Il est presque impossible de ne pas éprouver une sorte de plaisir sauvage à être témoin de ces combats. Ces deux énormes corps, tout en se battant, demeurent presque sans aucun mouvement. Leurs longs cous, enlacés l'un l'autre, ne donnent signe de vie que par de convulsives contorsions. Deux têtes, avec des yeux presque hors de leurs orbites, des bouches écumantes d'affreux rugissements complètent le tableau. On aurait dit deux chameaux, dis-je, mâles, se battant ensemble. Le soleil commençait déjà à baisser. Kouroglou se sentait fatigué de la puissante résistance de son ennemi et s'écria dans son cœur « Ô Dieu, préserve-moi de malheur, ô Ali !» Cela dit, il éleva Réilan la rabe en l'air et le rejeta par terre. Il s'assit sur sa poitrine et, tirant son couteau, il se préparait à lui couper la tête, mais il dit dans son cœur « S'il demande merci, je le tuerai. S'il ne le demande pas, ce serait pitié de tuer un si brave jeune homme. » Il regarda son visage, mais il était rouge, tranquille, et se laissait voir aucun changement. Alors il détacha la courroie qui était derrière sa selle et s'en servit pour lier les jambes et les mains de Rayan. Ce dernier dit « Au moment où tu lançais ton cheval pour franchir le précipice, je te faisais présent d'Aïvaz. J'ai été infidèle à ma parole, et pour un péché si énorme, le malheur tombe sur ma tête coupable. » Kouroglou répliqua « En vérité, nul autre homme que moi n'osera te poursuivre. J'ai pitié de toi et n'ai pas envie de te tuer. » J'ai seulement lié tes mains et tes jambes. Si une armée me poursuivait, elle ne serait pas assez hardie pour continuer après t'avoir vu ainsi garrotter. » Kouroglou lia donc Rayan avec une corde sur sa jument, et ayant remonté sur Kirat, il conduisit la jument avec une corde. Il plaça Aïvaz derrière lui, et ils arrivèrent ainsi à Chamlibil. Les sentinelles de Kouroglou le virent revenir de loin et informèrent les bandits de l'arrivée de leur maître. 777 hommes allèrent à sa rencontre. Kouroglou commanda qu'on fût chercher une robe d'honneur pour Aïvaz. Aïvaz la mit. Kouroglou ordonna que Khia Yacoub, qui tout le temps de l'absence de Kouroglou avait été enchaîné et confiné dans une sombre prison, fut amené devant lui. Il le reçut tendrement, lui ôta ses fers et le fit conduire au bain. Aussitôt que Khia Yacoub fut revenu, il le revêtit d'une superbe habillement et l'invita à s'asseoir près de lui à la place d'honneur. Les bandits s'enquirent avec empressement des détails de la capture d'Aïvaz et Kouroglou, les leur dit du commencement à la fin, n'épargnant pas les louanges à Rayan sur sa force et sur son courage. Il dit son conte en vers et en prose, fidèle à sa coutume de dire la vérité à la face des gens, disant à un poltron qu'il était un poltron, à un brave qu'il était un brave. Voici l'une des improvisations faites en l'honneur de Rayan. Improvisation. Frère, Aïvaz, un homme doit être un homme comme Rayan. Il a arraché des larmes d'admiration de mes yeux. Son bouclier est d'argent. Il répand le sang de l'ennemi avec abondance. Il a uni mon âme à la sienne. Il a gravé à la fois dans mon cœur le respect et l'attachement. Un homme juste doit être comme Rayan. Puisse chaque père avoir 5 fils comme lui. Puissions-nous avoir des guerriers comme lui pour compagnons.
Il mérite d'être le frère de Kouraghlou. Un homme juste doit être un homme comme Rayyan. » Kouraghlou ordonna qu'on servît un repas. Ayvaz fut nommé chef des échansons. Le vin coula, les mets tombèrent comme la pluie, et toute la bande festoya ensemble.